Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les amyloses héréditaires à transthyrétine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Fidalgo, qui est concerné par cette maladie rare et qui est également membre actif de l'AFCA, l'Association française contre l'amylose. M. Fidalgo, bonjour.
Bonjour.
Alors, M. Fidalgo, ma première question est très simple et très directe. Quand et comment sont survenus les premiers symptômes de votre maladie ?
J'ai commencé à ressentir les premiers symptômes lorsque j'avais 30 ans. À l'époque, j'étais assez sportif et je faisais des semi-marathons. Et lors des entraînements, j'ai commencé à ressentir une fatigue, une difficulté à tenir le rythme. Et par ailleurs, j'ai commencé à ressentir une sensation d'engourdissement au niveau d'un orteil du pied droit et des petites crampes, des petites douleurs qui remontaient jusqu'au mollet. Et donc, j'ai consulté mon généraliste qui m'a envoyé vers son frère qui était neurologue. Donc, j'ai consulté ce neurologue qui a pratiqué sur moi un électromyogramme qui, au départ, était tout à fait normal. Je suis allé le voir régulièrement et il s'est écoulé plusieurs années avant qu'un nouvel électromyogramme révèle des résultats anormaux. J'ai commencé à être inquiet parce que je savais que j'avais certainement, ou j'avais même le pressentiment que j'avais quelque chose de potentiellement grave. Par la suite, une biopsie a été effectuée, un prélèvement de tissu nerveux au niveau de la cheville. Et là aussi, une amylose a pu être identifiée, mais on ne savait pas quelle forme. C'est à la suite d'une prise de sang et d'une analyse génétique que l'amylose héréditaire à transthyrétine et la mutation précise ont pu être identifiées. Il s'était donc écoulé 3 ans depuis les premiers symptômes.
Alors, vous l'avez abordé, il s'est passé 3 longues années pendant lesquelles vous n'avez pas été diagnostiqué. Comment avez-vous vécu cette période ?
Il y a eu une inquiétude croissante. Notamment, comme je disais, au départ, je ne savais pas si ce que j'avais était bénin ou si j'avais vraiment quelque chose. Et au fur et à mesure de ces 3 ans, j'ai commencé à me dire que ça devait être sérieux. Et j'ai également songé à mon père, qui était décédé à 37 ans d'une neuropathie, mais non identifiée. Vis-à-vis du médecin aussi, j'avoue que je me sentais frustré, parce que je lui posais des questions, je l'interrogeais, et j'avais pas de réponse à ces questions, tant et si bien que lors du diagnostic final, je ne suis pas allé le consulter pour obtenir les résultats, mais je suis allé voir le neurologue qui exerçait dans l'hôpital où avait été effectuée l'analyse et donc qui lui avait aussi les résultats. Et lorsque j'ai consulté ce neurologue, j'ai eu en face de moi une attitude radicalement différente du premier médecin, puisque en même temps qu'il me donnait la nature précise de ma maladie, il me donnait également le centre qui en France était le seul qui maîtrisait l'expertise dans les neuropathies amyloïdes à transthyrétine. Mais également qui pratiquait le seul traitement qu'il y avait disponible à ce moment-là, à savoir la greffe du foie. Et dernière information capitale donnée par ce médecin, c'était les coordonnées de l'Association française contre l'amylose, qui existait depuis 6 ans, et qui pouvait m'apporter des informations, mais également un support.
Et quand le diagnostic a été posé, comment l'avez-vous ressenti ?
Lorsque j'ai découvert que j'avais une amylose, pas encore la forme transthyrétine héréditaire, ça a été un véritable choc pour moi. Notamment, ce que j'ai ressenti, c'est « mais pourquoi moi ? Pourquoi, pourquoi une maladie aussi grave? Et alors que voilà, j'ai 30 ans, je suis en pleine ascension de ma vie. Et c'est grâce au discours que m'a tenu le neurologue, hein, qui m'a donné le nom de ma maladie, le traitement et l'association, que j'ai pu me mettre dans un mode actif. J'avais cette maladie, c'était un état, je ne pouvais rien changer. Et la seule chose que j'avais à faire, c'est d'avancer. D'autant plus que la maladie progresse et on ne peut pas en guérir. Donc ce qui était important pour moi, c'était d'être soigné le plus vite possible. Et donc je suggère aux patients de cette maladie d'avoir cette approche, de se mettre dans un mode actif, de faire en sorte que les choses avancent le plus vite possible. Et dans ce cas-là, on n'a pas le temps de se lamenter, on n'a pas le temps de regarder l'état dans lequel on est. Non, on se projette, on va vers l'avant et on a en perspective ce traitement.
Alors, Monsieur Fidalgo, on l'a précisé en introduction, vous êtes membre actif de l'Association française contre la myose, qui est une association de patients. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette démarche?
Je les ai contactés tout de suite lorsque le médecin m'a donné leurs coordonnées. Et tout de suite, j'ai trouvé une oreille attentive. J'ai pu échanger et avoir des informations supplémentaires. Et il y avait peu de temps après l'Assemblée générale de cette association, qui était en région parisienne. Et mon oncle, qui n'était pas très loin, a pu y assister. Et grâce à ce premier contact, il a pu me mettre en rapport avec un des médecins, qui notamment celui qui s'occupait de la grève du foie. Et ça a pu me permettre d'avoir un rendez-vous assez rapide. Donc tout de suite, j'ai pu bénéficier du support de cette association et j'ai apprécié les contacts que j'ai pu y nouer. Et donc lorsque j'ai pu être greffé quelques mois après, lorsque j'ai pu être soigné, j'ai voulu partager mon expérience et aider les patients qui pouvaient se trouver dans la même situation, et notamment loin de Paris. Donc j'ai commencé à faire de l'écoute téléphonique pour les patients qui avaient la même forme d'amylose que la mienne. Et petit à petit, je suis devenu membre du bureau de l'association, avec plus particulièrement en charge des aspects internationaux. Et donc maintenant, je m'occupe d'une nouvelle association qui s'appelle Amyloidosis Alliance, et qui est une sorte de fédération des associations de patients dans le monde entier, sur les différents continents, et qui essaie d'agir à plus grande échelle pour faire connaître la maladie et faire accélérer les traitements associés.
Et plus généralement, quels sont les objectifs de l'Association française contre l'amylose?
Cette association a été fondée il y a 26 ans. Donc au départ, il n'y avait pas vraiment de traitement, notamment pour l'ensemble des formes d'amylose. Et les traitements sont arrivés petit à petit. Donc le premier rôle, c'est de faire connaître ces maladies, donc pouvoir les expliquer aux patients qui nous contactent, mais également les faire connaître à tous les médecins, que ce soit des généralistes, et ceci afin de diminuer l'errance diagnostique. Dans mon cas, ça a duré 3 ans. Malheureusement, c'est toujours un peu plus de 3 ans, la moyenne, entre les premiers symptômes et le diagnostic établi pour la communauté de patients. Donc il faut clairement réduire ces éléments-là, et les actions de communication sont très importantes. Donc ça se fait en faisant du lobby pour la formation des médecins, et donc maintenant à l'internat, il y a un passage obligé où on parle des amyloses. Ça se fait à travers l'organisation d'événements, de congrès, de réunions d'échanges, de vidéos, de témoignages, de manière à ce que voilà, les médecins puissent connaître au mieux cette maladie, les symptômes, les outils de diagnostic et les traitements. Au niveau des traitements, nous avons aussi un rôle en travaillant avec les différents laboratoires pharmaceutiques pour stimuler et essayer de faire accélérer la recherche, mais aussi l'approbation de ces médicaments par les instances européennes ou nationales. Et il y a le traitement pour stopper l'évolution de la maladie. Il y a aussi des traitements un peu plus qui vont probablement nécessiter beaucoup plus d'années de recherche sur peut-être un moyen de dissoudre les dépôts. Il y a aussi, ce sont des maladies qui touchent beaucoup d'organes et les traitements existants sont parfois impuissants à stopper l'évolution sur certains organes, par exemple les dépôts oculaires dans le vitré. Donc on essaie là aussi de stimuler la recherche pour travailler sur ces autres effets de la maladie. Nous travaillons avec les différents centres experts des amyloses à transthyrétine, de type neuropathie, les cardiomyopathies, les autres types d'amyloses aussi, de manière à orienter les patients vers ces différents centres. Et nous aidons également les patients sur les éléments complémentaires. C'est une maladie lourde qui touche plusieurs aspects. Et donc souvent, le rôle de l'aidant, de la personne qui accompagne le patient, est fondamental. Donc, nous avons par exemple édité un livret à destination des aidants pour répondre à leurs interrogations. Nous soutenons également dans plusieurs hôpitaux des démarches d'éducation thérapeutique. Ce sont des modules à destination de patients qui leur permettent de devenir un peu plus, avoir plus de connaissances de la maladie, des patients experts. Il y a également des démarches qui peuvent soulager les patients au niveau de massage ou d'automassage. Et nous essayons de supporter le déploiement de ces ateliers d'éducation thérapeutique dans des hôpitaux en région. Voilà, donc nous essayons d'avoir une démarche globale en travaillant avec les différentes communautés, les communautés de patients, les communautés de médecins, et également les laboratoires pharmaceutiques avec lesquels nous essayons de développer des outils qui peuvent être utiles à l'ensemble des patients. Et au niveau international, nous profitons de l'expérience de l'association française qui est une des plus anciennes et qui est une de celles qui a lancé le plus d'initiatives pour aider les pays où les patients sont encore démunis.
Alors on arrive au terme de notre entretien, Monsieur Fidalgo. Pour conclure, si vous aviez un message à faire passer ou à retenir, quel serait-il ?
J'ai tout d'abord un message pour les patients. Donc, l'amylose à transthyrétine est une maladie rare. Néanmoins, grâce à notre association, vous pouvez être orienté vers l'expert national ou régional qui connaît le mieux les traitements pour votre pathologie. Des traitements existent, la recherche est encore active pour des traitements plus efficaces et plus légers. Donc ne perdez pas espoir, les choses avancent. Un deuxième message à destination des médecins. Donc nous sommes très satisfaits des progrès qui ont eu lieu ces dernières années vis-à-vis des traitements. Néanmoins, il faut continuer à avancer, et notamment progresser au niveau des diagnostics, car les patients attendent plusieurs années avant que le diagnostic soit établi. Et ce sont des années pendant lesquelles la maladie évolue, crée des dégâts irréversibles sur les différents organes. Donc pour les patients, il faut pouvoir gagner sur ce terrain-là.
Eh bien, merci mille fois, Monsieur Fidalgo, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître l'amylose héréditaire à transthyrétine. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram, Rare à l'écoute, ou notre site internet www.rarealecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à l'amylose héréditaire à transthyrétine. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur la chaîne Rare à l'écoute pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite.